Ladies and gentlemen, you're listening CBN on Radio Bautas.
No flash, no scoop. C'est 7 bonnes nouvelles.
L'émission qui vous met la patatasse.
Bonne nouvelle.
Bonne nouvelle.
C'est quand ça fait boum dans mon cœur.
Une bonne nouvelle, ça a réjoui.
Oh, une bonne nouvelle.
Une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle.
Eh bien, bonjour les amis de 7 Bonnes Nouvelles. Comme tous les mois, on se retrouve avec grand plaisir sur l'antenne de Radio Bartas sur le 107 avec Philippe, alias l'homme à la patatas.
Bonjour Virginie, la femme à la patatas.
On va faire une belle poêlée avec tout ça.
Oui. Alors, pour bien commencer, on va écouter le premier et malheureusement le dernier message de notre répondeur. Mais bon, merci à celle qui nous l'a laissé. Si on n'a qu'un message, ça vaut quand même le coup de l'écouter, évidemment.
Bonjour, c'est Sophie. C'est un petit appel pour vous donner une bonne nouvelle. Je suis très contente, mes congés ont été acceptés et donc je vais pouvoir venir à Florac pour le Festival de la Soupe et faire un super stand coiffure où chacun pourra venir s'inventer une coiffure dans les cheveux avec des petits morceaux de légumes, de filets, de légumes secs, de... tout ce qu'on peut imaginer autour de la soupe, dans les cheveux, à travers un très joli chignon ou autre. Voilà. Petit bout de laine, voilà. Donc, ça va être très sympa. Et puis, la thématique, c'est certains lèvres chaudes, il n'y a pas que les soupes qui le feront. Voilà. Allez, super, à bientôt.
Bon, eh bien, merci Sophie pour ce magnifique message. Je vous donne rendez-vous à tous sur le stand de Sophie pendant le Festival de la Soupe. On verra qui est chaud et ce qui est chaud. Alors, quelques messages nous sont aussi arrivés sur la boîte mail de CBN. Alors, j'ai écouté des petits bouts d'émission du Procès du Loup. Je me demandais qu'est-ce qu'on fait des loups quand naturellement ils arrivent ? On les déplace sur un autre territoire, ce qui veut dire qu'ils savent, eux, sur les autres territoires, quoi en faire. On les enferme, genre c'est interdit ici pour toi, ce qui veut dire que tu n'existes pas, tu es une bête de cage. On les tue, ce qui veut dire à peu près la même chose, mais c'est gratuit. On fait, à qui est le territoire? À qui est cette nature? Alors, pourquoi avons-nous cette autorité? En fait, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas des loups. Sophie.
En tout cas, ces messages, ils sont d'actualité, hein, avec le procès du loup, qui était une vraie, vraie belle journée. Bientôt, on pourra voir le DVD produit par Télédrail. En tout cas, moi, j'ai croisé des gens qui ont assisté au procès. J'ai pas pu y aller, mais ils avaient tous la banane. Ils étaient tous heureux de cette journée. Donc, j'ai hâte de voir le DVD. Et puis, l'autre bonne nouvelle, c'est effectivement le retour en fanfare de la fête de la soupe qui va se dérouler le 23 et 24 octobre. Je pense qu'on en reparlera sur les ondes de Bartas. Mais en tout cas, il y a une belle programmation et plein de festivités à venir. Bon, en ce qui nous concerne, on va continuer l'effort et on se donne un objectif fou. Le mois prochain, on essaie d'avoir deux messages sur le répondeur et deux emails. Allez.
C'est dingue. Si on arrive à ça, ça va être complètement dingue.
Si on y arrive, on vous offre un Choco BN à Bartas. On vous rappelle le numéro quand même pour gagner notre défi fou. Alors, c'est le 04 66 47 06 92 et le mail cbn@radiobartas.net. N'oubliez pas que vous pouvez vous dédicacer des bonnes nouvelles.
Voilà, pour un anniversaire ou à une autre occasion, n'hésitez pas, un petit email ou un petit message sur le répondeur.
Ladies and gentlemen, you're listening CBN on Radio Bartas.
Eh bien, chère Virginie, on arrive au moment tant attendu de CBN tout azimut. Alors, est-ce que tu as une première bonne nouvelle nationale ou internationale à nous annoncer ?
Ben oui, tout à fait, j'en ai plein même. Donc la première, ça parle de skate. En fait, c'est l'histoire d'Oliver, un Australien, qui est arrivé par hasard à Kaboul en 2007. C'est un trentenaire et c'est un skater fou. Il décide de découvrir Kaboul en skate, tout naturellement. Mais ce qui est naturel pour lui n'est pas pour tous les gens de cette ville et tous les enfants qui se mettent à le suivre de partout. C'est un vrai extraterrestre pour eux, cet Australien en skate. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais sous le régime du Taliban, le sport, il est complètement interdit. Petit à petit, la pratique est à nouveau autorisée. Enfin, en tout cas pour les garçons, hein, pas pour les filles. Mais ce qui se passe, c'est qu'ils avaient oublié d'interdire le skate parce qu'ils ne connaissaient pas ce sport. Donc, Oliver, il s'engouffre dans la brèche et il crée une association pour apprendre à des jeunes à skater. Alors, il ne peut pas skater dans la rue hein, parce qu'il y a des petits graviers partout. Alors, il trouve une vieille fontaine désaffectée et rapidement, l'association prend de l'ampleur, est soutenue par les petits microcosmes des skateurs pros du monde entier. Ils reçoivent du matériel. L'association ouvre d'autres antennes et ça lui permet de mettre en place des choses incroyables, notamment un programme de Back to School. En fait, il négocie, hein, il raconte l'histoire d'une jeune fille qui devient prof de skate pour les autres enfants. Et en fait, il lui donne un salaire et en échange, il demande à son père de la remettre à l'école. Alors voilà, c'est vraiment des très très belles histoires. Et puis je crois qu'il a le projet, Oliver, d'ouvrir des écoles de skate comme ça dans d'autres pays du monde. Alors bravo, et ma source, c'est 21, le magazine.
Alors moi, je ne résiste pas à l'envie aujourd'hui de vous parler d'Avaz. Alors Avaz, c'est quoi ? C'est un mouvement mondial, en fait, en ligne, qui donne aux citoyens les moyens de peser sur les prises de décision partout dans le monde. Alors Avaz, ça veut dire voix. Ça veut dire voix en plusieurs langues asiatiques, Europe de l'Est et Moyen-Orient. Alors ce mouvement, il est né en 2007. Bon, c'est à l'initiative d'un petit groupe de personnes hein, qui s'est mobilisé pour créer un site internet. C'est un site qui vit de dons des membres privés surtout. Ce mouvement, il a des participations bénévoles dans le monde entier et on peut trouver le site en 14 langues différentes. Il y a des professionnels qui gèrent ce site évidemment, mais aussi beaucoup de bénévoles dans le monde entier. Alors, je voulais vous parler de ça aujourd'hui parce que en fait, donc Avaz mène des campagnes toute l'année hein, sur des thèmes très différents. Ça va de la défense des droits de l'homme jusqu'à la défense de la planète. Et là, aujourd'hui, comme vous le savez, à partir du 30 novembre jusqu'au 11 décembre, à Paris, c'est ce qu'on appelle le COP21, donc le sommet mondial des chefs d'État qui vont se réunir pour discuter un peu changement climatique et voir ce qu'ils peuvent faire entre eux. Bon, voilà, donc...
Et sauver
la planète, évidemment. Mais bon, pour Avaz, le fait qu'ils se réunissent, comme pour beaucoup de personnes, hein, ça suffit pas. Donc, ils se sont dit, c'est le moment d'organiser une mobilisation massive pour faire pression. Donc, cette mobilisation massive... Ils organisent un événement le 29, donc la veille du démarrage du sommet. Et ce qui est original, en fait, c'est que chacun peut proposer un événement à l'échelle nationale hein, par le biais de leur site internet. Je donnerai l'adresse tout à l'heure. Donc, même si on est une dizaine de personnes qu'on veut créer un petit événement, par exemple à Florac, on va sur le site, on remplit la partie créer l'événement, ce qu'on va faire, etc., à quelle heure c'est, tout ça. Et ensuite, on peut être rejoint par d'autres personnes du secteur qui voudraient s'associer à cet événement mais qui se sentent un peu seuls. Donc voilà, moi je trouve que c'est une bonne initiative. Alors j'ai regardé sur le site pour l'instant les événements qui sont dans la liste de ce qui est prévu. Il n'y en a pas en Lozère, il y en a plutôt sur Montpellier, sur Nîmes, il y a des choses qui commencent à se mettre en place. À nous de jouer si on veut qu'il y ait un petit rassemblement ou je ne sais quoi qui se passe en Lozère. Allons poser un événement sur le site. Voilà, je vous donne l'adresse du site internet. Donc c'est avaz.org. Avaz, ça s'écrit A-V-A-A-Z.
Alors Philippe, combien de fois tu changes de brosse à dents par an, toi ?
Moi, quasiment tous les jours.
Moi, je vais vous parler de la Brosserie Française. En fait, c'est une usine, une fabrique qui a 170 ans et qui produit chaque année 8 millions de brosses à dents. Et voilà, mais c'est le dernier fabricant français. Mais c'est pas que ça qui est intéressant. C'est que la bonne nouvelle, c'est qu'ils essaient de faire les choses bien et de proposer des nouvelles idées pour réduire les déchets. Donc déjà, ils ont une fabrication de leur brosse à dents très écologique, hein, à base d'amidon de maïs et de plastique biodégradable. Et ensuite, ils ont mis en place un nouvel abonnement. Ils ont déjà 10 000 personnes. Alors, l'idée, c'est qu'on aille s'abonner et qu'en fait, on reçoive une nouvelle brosse à dents. Et chaque fois qu'on reçoit notre nouvelle brosse à dents, on a une petite enveloppe qui est déjà affranchie où on remet notre ancienne brosse à dents. On leur renvoie gratuitement. Et après, ils la recyclent et ils refont des petits bouchons de brosse à dents. Donc, la boucle est bouclée. C'est très sympa. Donc, la marque qu'on trouve dans la grande surface, c'est Bioceptile. Apparemment, il y a d'autres noms de marques, mais je n'ai pas trouvé. Donc, je suis désolée. Mais je vais aller me renseigner pour m'abonner, moi, personnellement.
Bon, eh bien Virginie, puisqu'on peut se brosser les dents plus souvent, puisque les brosses à dents vont être recyclées. Alors moi, j'ai une petite bonne nouvelle, mais surtout pour les enfants, bien que certains adultes mangent aussi des bonbons, par exemple. Oui. Alors, vous savez que maintenant, on arrive à une époque où on a des imprimantes 3D qui sont accessibles pour les particuliers. Eh bien, en ce moment, à Berlin, se tient la Magic Candy Factory, où l'on peut venir faire imprimer ses bonbons. Alors, les imprimantes 3D, les cartouches, au lieu d'être remplies d'encre ou de PVC ou je ne sais quoi, et en fait, il y a de la purée de fruits et des gélifiants végétaux. Et cette imprimante, elle est programmée pour imprimer à peu près 12 formes différentes de bonbons. Mais par contre, on a le choix de 10 couleurs et de 10 goûts différents. Donc, ça fait quand même pas mal de bonbons. Donc, on y va, on commande ses bonbons. Et voilà. Alors, bonne dégustation à tous les enfants qui iront au Magic Candy Factory.
Alors une bonne nouvelle, un petit peu plus sérieuse, c'est la condamnation de Monsanto. Voilà, c'est un long, long combat qui se termine pour Paul François. C'est un agriculteur en Charente qui est engagé depuis 10 ans dans une grande et longue bataille juridique auprès de ce géant américain. La cour d'appel de Lyon a définitivement donné raison à cet agriculteur en concluant que la firme multinationale était responsable du préjudice qu'il a subi à la suite de l'inhalation d'un pesticide pour du maïs Lasso. Il y avait déjà eu un premier jugement en 2012, mais bien sûr, il y avait eu un appel. Et la Cour de Lyon a confirmé donc le premier jugement condamnant Monsanto à indemniser entièrement le céréalier. Et c'est la première fois, c'est vraiment une première historique, la première fois qu'un fabricant de pesticides est condamné à indemniser un agriculteur pour l'avoir intoxiqué. Donc ça peut être la porte ouverte, une première brèche pour engager enfin la responsabilité des fabricants. Donc, quant à Monsieur Paul François, maintenant il est bien malade, certes, il a réduit son activité et il a décidé avec son associé de convertir la moitié de ses hectares en bio. C'est une sage décision, il me semble.
Bon, une bonne nouvelle qui se passe en Iran. On entend souvent parler de l'Iran, mais plutôt, c'est vrai, il faut bien le reconnaître en mauvais termes. Et donc, nous, on a trouvé une bonne nouvelle qui se passe là-bas, donc ça valait le coup d'en parler. Alors, suite à une modification de loi, les tribunaux d'Iran, maintenant, ont un peu plus de liberté et peuvent avoir plus de créativité dans le domaine de l'alternative à la prison. Alors, par exemple, des jeunes qui ont été condamnés pour des faits un peu mineurs, qui sont non inscrits au casier judiciaire, devaient faire de la prison. Et en fait, le juge Kassen Nadizadeh leur a infligé une peine un peu particulière. Il leur a demandé de lire un certain nombre de livres, des livres plutôt grand public, d'en faire une fiche de lecture, pour pouvoir vérifier s'ils l'avaient bien lu et s'ils avaient compris le livre, et ensuite d'en faire don à la prison locale de leur choix.
Alors, maintenant, avec les tomates, on peut fabriquer des cartons pour recycler les tomates. C'est pas clair, je vous explique. C'est encore une histoire de boucle. À l'origine, des producteurs de fruits et légumes du Pays-Bas, ça se passe un petit peu loin de chez nous, ils se sont réunis pour essayer de réfléchir à une alternative écologique de leurs emballages. Et en fait, rapidement, ils essayaient de réfléchir à une solution pour valoriser les tonnes de restes végétaux qui sont dans les champs après la culture. Vous voyez, les tiges, les feuilles, tout ce qui reste des tomates, en fait. Donc, ils sont associés à une firme qui leur a proposé de broyer tout ça avec une autre entreprise et de la mélanger, ce broyat, avec des fibres de bois. Et tout ça nous permet après de faire des planches de carton qui sont utilisées pour transporter les dites tomates. Donc voilà, c'est bouclé la boucle. Par contre, maintenant, ils réfléchissent à utiliser les poivrons et les concombres.
Bon, toujours un peu dans le domaine alimentaire, je voulais vous présenter une initiative de l'économie solidaire, donc trouvée sur le site CIS, qui s'appelle Zéro Gâchis. Zéro Gâchis, c'est une petite entreprise qui en fait propose aux consommateurs de trouver facilement des produits qui approchent de la date de fin de validité. Vous savez que maintenant, les grandes surfaces ne peuvent plus détruire les produits qui ont dépassé la date de validité. C'est assez récent, je crois.
On l'avait annoncé dans le premier CBN.
Oui, voilà. Eux, ils ont eu l'idée de mettre en place, d'abord un site internet pour mettre en relation les grandes surfaces et les consommateurs, donc les internautes. Mais aussi, il leur fallait une petite machine qui permette aux grandes surfaces, très rapidement, d'étiqueter, de remettre un prix, d'isoler ces produits, de le mettre dans un rayon, une partie de rayon un peu spécial, estampillé zéro gâchis, voilà, avec une déco et tout ça. Donc, les gens, ils vont voir sur le site internet, ils regardent où ils peuvent bénéficier de prix très réduits, hein, ça peut aller jusqu'à 30 à 40%, et ensuite ils savent dans quel magasin c'est, et voilà, ils peuvent ensuite aller acheter. Alors, tout le monde est gagnant, puisque le consommateur, lui, s'y retrouve parce qu'il paye moins cher. La grande surface s'y retrouve aussi parce qu'ils ont une obligation maintenant de plus détruire. Et en fait, le système du don à des associations caritatives n'utilise que 12% de tout ce qu'il faut, de tout ce qu'il faudrait, de tous les invendus, en fait. Tout simplement parce qu'il y a des questions de logistique lourdes à mettre en place qui ne sont pas encore en place. Donc les dons, c'est bien, mais pour l'instant, ça ne fonctionne pas à 100%. Donc d'où l'intérêt de cette initiative.
Oui, mais c'est sympa et puis ça permet de faire une alternative en attendant que tout se mette en place.
Voilà, et puis donc, alors j'ai aussi regardé sur le site internet de Zéro Gâchis. Pour l'instant, dans notre secteur, évidemment, il n'y a pas trop de grandes surfaces qui jouent le jeu, mais on espère que cette initiative, elle va se développer, et puis qu'on pourra aussi faire un geste pour la planète en utilisant ces produits presque à la date limite.
Oh, je voudrais être un fauteuil dans un salon de coiffure pour dames. Des belles âmes s'écrasent contre mon orgueil. J'aimerais être un parfum juste pour me faire sentir et sur votre corps m'évanouir comme une goutte en pure de sang.
Vous êtes bien sur CBN, Cévennes Bonne Nouvelle, sur le 107 à Radio Bartas, bien sûr. Nous venons d'écouter un très joli morceau de Gnawa Ombrelle. Pour la prochaine rubrique, nous accueillons Bertrand. Merci d'être venu avec nous et pour nous parler des gens, du vin. Je te laisse la parole, Philippe.
Oui. Alors, bonjour Bertrand. Donc, bonjour. Voilà, comme le dit Virginie, aujourd'hui, nous accueillons Bertrand Servière, un des vignerons des Gorges du Tarn. Alors, Bertrand, est-ce que tu as une bonne nouvelle à nous annoncer? Les vendanges viennent de se finir, je crois. Donc, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé, alors?
Cette année, c'est vrai que c'est une année un peu particulière. On vient de finir les vendanges le 24 septembre, avec un mois d'avance. D'habitude, on finit fin octobre. Et c'est vrai qu'on ramasse cette année des raisins superbes. Les premiers vins sont assez extraordinaires pour ici.
D'accord. Et à quoi c'est dû alors cette bonne nouvelle?
D'abord, la vigne avait commencé à pousser de bonne heure au printemps. Et puis les conditions estivales ont fait que la vigne a gardé beaucoup d'avance. La sécheresse estivale a fait des raisins particulièrement sucrés et prêts et mûrs de très bonne heure.
Oui, parce que bon, tout le monde l'aura vu, il a quand même fait chaud cet été, ça c'est bien pour le raisin, mais par contre, ça manquait pas un peu d'eau?
Si, à un moment, on était un petit peu inquiet, il y avait pas d'eau du tout.
Hein. Il a fallu arroser alors?
Juillet, ou comment... août, pas une goutte d'eau, non, on n'arrose pas la vigne. Bon. À des endroits, on arrose, il y a des possibilités. On y a pensé, mais bon, on n'est pas équipé pour. Mais effectivement, si on avait été équipé, on aurait peut-être pu arroser un petit peu la vigne.
Enfin, en
elle
tout
a
cas,
eu très soif à un moment.
Elle a eu très soif, mais ça ne gêne pas du tout.
Ça n'a pas gêné non, la maturité. Franchement, on est très, très, très surpris. Et au contraire, la maturité a été extrêmement rapide et très précoce.
D'accord. Par contre, je crois que tu me disais qu'en quantité, par contre, c'est
en quantité,
un peu moins bien.
Enfin, c'est moins bien. On ne va pas dire moins bien. Oui. C'est beaucoup moins que d'habitude, mais ce n'est pas grave du tout. Quoi. On préfère vinifier des très beaux raisins, se faire plaisir avant tout quoi, par notre produit.
D'accord. Donc, alors, est-ce que moins de quantité, est-ce que le vin qui est issu de ce raisin va être plus alcoolisé, moins alcoolisé
Oui, cette année, c'est un effet assez marquant ici en Lozère, c'est que d'habitude, on a des vins qui font entre 12 et 12,5 degrés. Cette année, tous les vins dépassent les 13 degrés. On a des cuvées qui, ce qu'on a ramassé hier avec un mois d'avance, c'est à 14,8 degrés. Donc, on se rapproche des vins du Languedoc, vraiment des vins du Sud. Quoi.
D'accord, qui sont des vins
qui sont des vins très charpentés, très alcooleux. Et c'est vrai que pour nous, c'est exceptionnel.
Vous êtes combien pour faire ces vendanges alors
Alors, pour faire les vendanges ici au domaine des Cabridelles, c'est assez sympathique, c'est assez rigolo, mais on travaille avec des bénévoles. On a une équipe depuis le début qui nous est fidèle, des gens à la retraite, des amis, de la famille, qui donnent leur temps pour nous aider à vendanger. Quand on a fait les projets de planter la vigne, ça a suscité des sympathies. Et on a plein de gens, alors, de tout horizon, de Florac, d'Espagnac, des gens qui viennent de Paris, qui ont des maisons secondaires et qui viennent nous donner un coup de main.
Vous faites appel aux bonnes volontés, aux retraités actifs.
Exactement. Hier, on était 15 à vendanger. Voilà, il y a des... Ça se passe toujours comme ça, et c'est bien.
D'accord. Et donc, Sylvain Gachet, qui est le deuxième
notre vigneron.
Donc oui, je vais quand même vous présenter tous les trois vignerons. Donc il y a Bertrand, toi, voilà.
Oui.
Il y a ta compagne Elisabeth Boyer.
Oui.
Donc ça, c'est le domaine de Cabridelles. Et il y a Sylvain Gachet, le domaine de Gabali.
C'est ça.
Et donc, lui, il est aussi content de sa vendange, j'imagine,
puisque vous êtes
l'un à côté de l'autre.
Voilà, très content aussi. On est sur deux terroirs différents. On est à quelques kilomètres l'un de l'autre.
Voilà, mais si pareil, tu peux les situer, ouais.
Même condition, Sylvain, lui, a son vignoble sur Espagnac même. Et nous, on a le vignoble sur la commune de Quézac et Saint-Enimi, en face le site de Castelbouc.
Ouais, vous êtes plus sur le calcaire, en fait.
Voilà, nous, on est complètement sur le calcaire. On est sur des éboulis des Gorges du Tarn, hein, sur les falaises, toutes ces falaises qui se sont éboulées à un moment. Donc, un sol très, très différent. Mais voilà, les conditions étaient identiques à Espagnac.
Il a fait aussi chaud à Espagnac qu'à Montbrun. Bon, ça va alors. Ouais. Quelle est l'histoire de ce vignoble, en fait? Parce que, il y a 20 ans, il y avait déjà des vignes dans les Gorges du Tarn ou...
Alors, il y avait beaucoup de vignes dans les Gorges du Tarn, en partant de Florac, en passant par Bédouès, par Cocurès, par Espagnac. Toutes les Gorges du Tarn étaient viticoles. Il faut savoir qu'au siècle dernier, tous les gens avaient un morceau de vigne. Tout le monde vivait de la vigne. C'était l'activité principale. qui avait dans les coteaux. Quoi.
Alors, est-ce que le vin était aussi bon que celui que vous faites ou...
Le vin était très différent, même si je ne l'ai pas goûté, mais par rapport à ce qu'on sait, par rapport à ce qu'on voit et par rapport à ce qu'on nous dit, le vin était très différent. C'était des vins déjà qui pesaient entre 7 et 9 degrés d'alcool. Vous voyez, aujourd'hui, on est quasiment au double. Quoi.
Oui, c'est pas beaucoup. Oui.
C'est pas beaucoup. Oui. C'était des vins de masse. Ils se produisaient beaucoup plus par hectare que nous. Mais voilà, ça correspondait, si vous voulez, à ce qui se faisait il y a 50, 60 ans. C'est-à-dire, les gens buvaient beaucoup de vin. Les hommes dans les champs buvaient 3 à 6 litres de vin par jour.
C'était le vin de table, quoi.
C'était vraiment la boisson de table. C'était la boisson. Les hommes ne buvaient d'ailleurs pas d'eau. Souvent, ils ne buvaient que du vin. Mais quand même. Quand on regarde, 5 litres ne serait-ce qu'à 9 degrés, ça fait quand même quasiment une bouteille de pastis par jour d'alcool.
Voilà. D'accord.
Donc ça reste des quantités élevées.
Ce qui commence à être un challenge un peu difficile, une bouteille de pastis par jour, bon, voilà. Donc ça, c'était quand même au siècle dernier.
C'était au siècle dernier. Ouais. Tout le vignoble a disparu petit à petit pour plusieurs raisons. Ici, en Lozère, les gens sont partis de la Lozère déjà. Les campagnes se sont vidées. Oui. Les agriculteurs, ils étaient très nombreux, beaucoup de monde dans les fermes parce qu'il n'y avait pas de mécanisation. Et puis les campagnes se vidaient, le vin n'a pas trouvé trop preneur.
D'accord.
Après, dans les gorges, ce qui s'est passé aussi, c'est que les jeunes se sont tournés vers le tourisme. Du coup, le vignoble petit à petit a été abandonné. C'était un vignoble assez difficile à travailler, un vignoble de coteaux, pentu, donc pénible. Et petit à petit, il a été abandonné. Voilà.
Oui. Et quand vous êtes arrivé, donc, par contre, là, vous avez repris des vignes existantes,
il n'y avait plus, une parcelle en état pour produire du vin, donc il a fallu absolument tout replanter. On a remis en état les anciennes parcelles de vignes qui étaient toutes en friche, et les arbres avaient pris le dessus, les murs s'étaient écroulés. Donc en fait, les murs ont été refaits en pierre sèche, toutes les parcelles nettoyées, puis on a fait nos premières plantations en 2006.
Oui, et c'est vous qui avez refait les murs, nettoyé les parcelles
Nettoyé les parcelles, on y a participé, mais on a fait appel aussi à la prestation de service. Oui. Et les murs ont été refaits par un entrepreneur. Voilà.
Mais c'est vous qui avez financé ou c'est
non, une aide des communes
Je crois que ça fait partie d'un projet.
Pour ces projets, il y a eu des aides qui ne nous ont pas été données directement à nous, mais voilà, il y a eu des aides publiques, européennes, régionales. Voilà, pour remettre en état le coteau.
Mais ça contribuait à retrouver les paysages d'antan,
exactement.
En fait.
Exactement, ça faisait partie des critères, si vous voulez, de remettre en état la vigne, de recréer du paysage et de refixer des personnes aussi dans des zones qui se meurent un petit peu.
Ah oui, c'est une utilisation intelligente de l'argent public, on va dire.
Oui, c'est vrai que ça n'a pas plu à tout le monde, mais c'est quand même, je trouve que ce sont des jolis projets. Quoi.
Nous, on est bien contents de voir votre vin.
Oui, nous, ça nous va bien. Donc, vous avez replanté quoi, alors, comme cépage
Alors, quand on s'est installé, on n'a pas eu trop le choix tout de suite. C'est-à-dire que, en France et en Europe, on ne plante pas de la vigne comme on veut, on ne choisit pas les variétés que l'on veut. Donc, on a une liste imposée, au départ avec deux cépages, le Pinot Noir et le Chardonnay. Pourquoi ces deux cépages? Parce que ce sont deux cépages très précoces. Et comme on n'avait pas trop de recul en Lozère, on a dit qu'ils vont mûrir en Lozère.
Ça pouvait bien coller avec le climat et tout ça. Ouais. D'accord.
Après, nous, ça ne nous a pas enchanté de planter que deux cépages. Donc, on a fait un petit peu le forcing. Et on a pu planter trois autres cépages, le Sauvignon Blanc, la Syrah et le Marcelin. Voilà. Aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'on s'est installé. On aurait le droit de planter beaucoup plus de variétés parce que la réglementation a changé et la liste des cépages autorisés.
D'accord,
c'est agrandi pour la Lozère.
Pour la Lozère, ça s'est agrandi. Ouais. Ok. Bon, peut-être des projets justement avec des nouveaux cépages.
Alors, on y pense. D'abord, un projet, c'est la plantation d'une parcelle à Hispaniac. C'est une ancienne parcelle qui a été abandonnée, qui est un clos. Un clos, c'est un ensemble c'est un ensemble de terrasses qui sont fermées par un mur d'enceinte. Et donc ça, on va le replanter parce que c'est trop joli et on ne veut pas le laisser tomber.
D'accord,
donc,
et je crois que ça se voit en montant pour les gens qui vont à Mende en passant par Moline.
Voilà, dès qu'on part de Moline, sur la droite, on peut voir ce clos en montant.
Il y avait une vieille vigne avant qui était là.
Il y avait la vieille vigne, on a fini de l'arracher
dans la cheminée.
À l'automne, elle n'était plus en état de produire, malheureusement, sinon on l'aurait conservée.
Mais c'est un magnifique endroit.
C'est très joli. Il y a une petite maison de vigne intégrée dans une terrasse. Elle est vraiment superbe.
Oui, de toute façon, pour ceux qui connaissaient le vallon de Moline là, avant 2000, c'est vrai qu'on voit le changement quand même.
Oui, un petit peu, ça se voit quand même.
Ça se voit bien. Ouais. Alors, une fois que cette bonne vendange est faite, là, qu'est-ce qu'on fait du raisin? Vous en faites quoi? du vin, évidemment.
Voilà, on ça fait, se passe à Espagnac, je crois. Donc, ça se passe à Espagnac. Ouais. À Espagnac, il y a une ancienne coopérative qui a servi de coopérative pour les fraises à un moment. Après, il y a eu des champignons. Donc, en fait, cette cave a été réhabilitée par la communauté de communes.
D'accord, dans le même cadre, du même projet.
Dans le même projet. Ouais. Donc, la cave appartient à la commune Espagnac. Ouais. Elle l'a donnée momentanément à la communauté de communes. Et je crois que c'est le premier projet qui a été réalisé quand la communauté de communes a été créée sur Florac.
D'accord.
Voilà, donc ils nous ont réhabilité la cave un petit peu comme on voulait. Et donc on est locataire, on loue la cave à la communauté de communes.
Donc les deux vignerons
Donc les deux, l'ensemble des deux productions sont dans cette cave. C'est pas une cave coop, on ne mélange pas. Chacun a sa cuverie, chacun son vin, chacun son histoire, chacun fait comme il a envie. Mmh. Voilà, comment ça se passe. Après, on a du matériel en commun, bien sûr, parce qu'il y a du matériel qui ne sert que quelques jours par an, comme le pressoir pendant les vendanges. Ce sont des matériels quand même très onéreux, donc on mutualise les moyens.
Oui, c'est donc votre cave, mais c'est aussi un endroit où on peut venir vous voir, venir acheter du vin.
Oui, tout à
donc,
fait.
Donc voilà, parce que comment, une fois qu'il est fait ce vin, il faut bien le vendre. Bon, nous, on veut bien en boire un peu, mais bon, voilà.
Oui, donc la cave, c'est le lieu de vente aussi. Hein. Comment on vend nos vins? On vend majoritairement nos vins au départ de la cave. Déjà beaucoup l'été avec tous les jeunes de passage, tous les vacanciers, c'est 50% de nos ventes, donc c'est énorme. Ça veut dire que pour nous, le tourisme, il est très important. Donc on fait tout pour être bon aussi pendant cette période, pour renseigner les gens, surtout un petit peu pour qu'ils soient contents de venir à
Lozère. Pour être présent quand ils passent, quoi.
Donc. Oui, oui.
Et à l'inverse, vous êtes très important aussi pour les touristes, pour les gens qui viennent nous visiter.
On les renseigne beaucoup aussi, ils sont demandeurs, on leur indique les bons restos, on leur indique les balades à faire dans
Le coin. Oui, puis même en termes de paysage,
exactement.
C'est avoir de la vigne ici, c'est plutôt bien.
Oui, moi je pense que c'est plutôt bien. C'est quand même le vin, c'est un petit peu, je crois que c'est encore plus, c'est comme le fromage, ce sont souvent des produits avec fort de terroir, quoi, si vous voulez. Ils ont une identité exceptionnelle. Et les gens en Corse, je trouve, se raccrochent beaucoup.
Ils sont attachés à ça.
Très attachés.
Oui, et puis j'espère aussi qu'ils se régalent en dégustant ça.
J'espère, puisqu'ils achètent. Donc c'est
bon, ça va alors.
Il y a bien quelques exceptions toujours, mais c'est normal.
Évidemment.
Mais globalement, les gens sont satisfaits.
Oui, d'accord. Donc, merci beaucoup, Bertrand,
d'être venu
nous apporter cette bonne nouvelle d'actualité.
Avec plaisir.
Et on a hâte de goûter la nouvelle.
Oui, il faudra venir goûter. C'est
avec plaisir. Alors, j'espère que ce ne sera pas trop fort, mais bon, on vous fait confiance, vous allez nous arranger ça, ce sera très bien.
Oui.
Merci à toi, Bertrand.
Merci à vous.
Merci, à très bientôt.
À très bientôt.
Ladies and gentlemen, you're listening CBN on Radio Bartas.
Bon, eh bien, Virginie, on arrive à notre dernière rubrique. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Alors, ce mois-ci, est-ce que tu as un petit conseil de lecture à nous donner?
Bah oui. Alors, il s'agit d'un livre de Gila Lustiger de 2008, Un bonheur insoupçonnable. C'est un roman un peu excentrique, semi-philosophique, avec des personnages tous plus aberrants les uns que les autres. Il y a des illustrations saugrenues. Enfin, ce qui en ressort, c'est l'importance de chercher et trouver le bonheur dans les petites choses de la vie.
Voilà, et un petit film alors?
Oui, aussi. Donc, c'est Moonrise Kingdom de 2012 de Wes Anderson avec Bruce Willis. Alors, l'histoire, ça se passe en 1956, une petite île de la Nouvelle-Angleterre où deux enfants tombent amoureux et concluent un pacte secret en s'enfuyant. Ah, ça vous donne envie, hein?
Oui, on va regarder ça, c'est un soir.
Little boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky, little boxes on the hillside, little boxes all the same. There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. And the people in the houses all went to the university where they were put in boxes and they came out all the same. And there's doctors and lawyers and business executives and they're all made of ticky-tacky and they all look just the same. And they all play on the golf course and drink their martinis dry, and they all have pretty children, and the children go to school, and the
pink one and the green one and the blue one and the yellow one, and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same.
Vous venez d'entendre la musique de Walk of the Earth du groupe Little Boxes. Alors, merci d'avoir écouté CBN sur Radio Bartas sur le 107, puisqu'on arrive au terme de notre émission. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter l'émission alors, tous les jours si vous en avez besoin en podcastant sur le site radiobartas.net. Alors, elle sera rediffusée le 23 octobre à 19h. Alors là, on a de la promo, on est passé à une heure de grande écoute, hein, Virginie.
Ouais, on est trop fiers.
Ouais, on est trop fiers. Donc voilà, merci à vous de nous avoir écoutés. Et
on se retrouve le lundi 2 novembre à 8h15, changement d'horaire aussi, 8h15 sur le 107. À très bientôt.
À très bientôt.
It was CBN on Radio Bartas. Thanks for listening.